Bienvenue dans Je vais au ciné, votre émission de cinéma, tous les lundis à 14h. On a aujourd'hui avec nous Antoine.
Bonjour.
Comment ça va Antoine?
J'ai trop mangé à la cantine de la radio et là je sens que je vais faire une sieste.
T'as raison.
Le film est mignon, il était trop bon.
Comme par hasard, il va dormir au moment où je fais ma chronique, comme par hasard.
Et puis qui va faire sa chronique justement, Mika.
Bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui c'est comme à chaque fois, on va avoir la chronique de Michael. Il fait pas toujours une chronique Michael, mais là aujourd'hui ce sera lui. Et puis on va faire une petite pause musicale, on va reparler de Camille avec l'intervention de Boris Lotchkin.
Elle redouble non Camille?
De quoi?
Non, c'est une blague.
C'est pas grave, je t'ai pas entendu.
Tu l'écouteras en montage.
Sans doute. Et puis, on fera une pause musicale et on parlera de films qu'on a vus récemment, voilà, comme d'habitude.
J'aimerais qu'on revienne sur Joker.
Non, c'était la semaine dernière. Et puis, comme d'habitude, je vais avoir une petite surprise pour mon ami Mika. Je lance ça tout de suite.
1 000 millions de 1 000 sabords, je ne peux pas y croire. Oh, c'est prodigieux, je suis...
C'est Astérix, non?
C'est ça, ouais. C'est Spirou.
Mais je t'en prie.
Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par la question. Je suis un jeune compositeur de musique de film de 34 ans. J'ai mis en musique 4 films. J'ai déjà remporté 2 Oscars et 3 Golden Globes. Je suis le compositeur attitré de Damien Chazelle. Je suis...
J'en sais rien.
Justin Hurwitz.
Ah.
Mais vous êtes là pour apprendre des choses aussi. Hein.
Bah oui, mais je le connais pas lui.
Alors, on va découvrir tous ensemble avec les auditeurs. mais voilà un nom dont il va falloir se souvenir dans les prochaines années. Parce que mine de rien, le gars a 34 ans, 2 Oscars pour La La Land. Ah. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce film.
Oui, vaguement, je crois. Non.
Vaguement,
si.
Ouais.
Je sais pas trop.
Et un Golden Globe pour la BO dont je vais vous parler d'aujourd'hui, c'est First Man, le premier homme sur la Lune.
Ah.
D'où le rapport avec le capitaine Haddock qui sait que c'est...
J'ai vu le film au ciné, je m'en souviens plus. Alors autant dire que la musique.
Je l'ai toujours pas vu.
Et assez lunaire, il paraît.
Alors il faut peut-être préciser que Antoine a une réaction assez allergique à tout ce qui a trait de près ou de loin à un biopic.
Ah oui, c'est ça vrai permet, que c'est un biopic. Ouais,
ça permet de comprendre aussi pourquoi cette réaction tranchée tout de suite dès le début.
Le film était pas bien.
Ça vaut pas je sais pas un Michael Bay.
Armageddon par exemple.
Armageddon.
Soyons honnêtes 5 minutes.
Je peux faire ma
chronique. Oui, c'est ton moment.
T'en prie.
Ce serait quand même peu dire que ce film faisait l'objet d'une certaine curiosité bien avant sa sortie.
Ça c'est vrai.
Parce qu'il faut savoir que Damien Chazelle était connu jusqu'à présent que pour faire des films musicaux. Whiplash, La La Land, c'est que des films sur la musique.
Il y a un rapport avec Marianne Chazelle?
Non, pas du tout.
Non mais Whiplash c'est bien.
Ça c'est bien.
Ouais, ça c'est bien.
Et on peut pas vraiment dire que Neil Armstrong, du moins sa vie, ça soit une comédie musicale.
Le cycliste.
On sait jamais, il y a eu des très très bonnes.
Ouais, c'est vrai que on peut pas dire qu'on n'aura jamais de comédie musicale. Sur
pourquoi
ça.
Pas d'abord
ouais, pour les 50 ans de. Pour les.
Ah, les 50 ans,
ouais, c'est ça, les 50 ans
on
du
les a
premier
fait.
Homme sur la Lune. Bah
oui.
Si, 1969-2019.
Oui,
50
mais
ans,
je pense qu'on l'aura
l'a déjà passé, je crois.
Oui, en juillet, ouais.
C'est un peu passé, un peu en retard.
Ouais, 3 mois, qu'est-ce que c'est, 3 mois.
Ouais, mais bon, pour les 50 ans, c'est un peu raté.
Bon, 50 ans.
Je l'ai aussi né, une émission à la pointe de l'actualité.
Eh, on n'a pas fini 2019, ça fait toujours 50 ans.
Oui.
Alors, bon, cela dit, quand même, on peut noter que ce résultat était à la hauteur, au moins à la hauteur des attentes. Un biopic magnifique réalisé par l'Oscar des meilleurs effets visuels et une bande-son qui, comme à l'accoutumée avec Chazelle et Hurwitz, est un personnage à part entière du film. C'est ça ce qui fait la caractéristique de leur cinéma.
C'est un américain, il est de quelle origine, le bonhomme?
Lequel?
Le
Chazelle ou Hurwitz?
Non, Hurwitz, Chazelle il est canadien, mais
Ouais, et Hurwitz, il est américain.
Américain.
Cette bande originale fait figure un petit peu d'OVNI dans la musique de film hollywoodienne actuelle.
Hey, quand on parle d'un film dans l'espace, OVNI.
Ah, ça marche. Bravo.
Ouais, tu la noteras celle-là, tu me mettras mon nom en face hein, quand même. Parce que c'est
dans les meilleures blagues de l'émission.
Parce que c'est moi qui écris quand même. Alors, je disais donc, et je vais avoir du mal à faire cette chronique bizarrement, hein, cette bande originale fait un peu figure d'OVNI dans la musique de film, car elle est encore largement dominée par Hans Zimmer et ses protégés, Media Venture et tout ça. Donc c'est un peu en quelque sorte une bouffée de fraîcheur, car cette musique aussi entre la tension, voire même la claustrophobie à la moment, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, et la douceur entre le côté épique d'un voyage dont on n'est pas vraiment sûr qu'ils reviennent. Nous on sait que 50 ans après ils sont revenus, mais quand ils le font, je pense qu'ils n'étaient pas bien sûrs, et l'intime. Alors Justin Hurwitz se sert avant tout de sons électroniques et industriels, des ronronnements de moteurs, des martèlements d'usines, pour marquer le côté vraiment le côté métallique, le côté organique.
Ce matin, ma machine à laver, elle a fait le même bruit. Je l'ai coupé direct. Hein.
Ouais, elle coupe là direct. Hein.
On n'est pas loin de Mars Attack, là, j'ai l'impression.
Je sais pourquoi tu dis ça, j'y viens. Cette ambiance mécanique est là pour dépeindre la dangerosité du projet, la claustrophobie qu'on peut ressentir à l'idée que des mecs vont rentrer là-dedans, dans ces espèces de boîtes de conserve géantes, tenues par des boulons et des vis, et se dire que, ah ouais, ça c'est censé les amener à destination quand même. Et je ne vais pas passer sous silence le superbe morceau intitulé « Dokkenwalz », prends ça dans tes dents avec ton accent.
Madame offre... Cœur, ma prof d'anglais.
Elle a dû souffrir. Qui offre une parenthèse aussi inattendue que bienvenue dans l'atmosphère du film, qui peut être quand même vachement pesante.
Tu t'es trompé de musique là ?
Non, non, c'est le même film.
Je crois qu'on est dans les valses de Vienne.
C'est ça.
Et c'est à quel moment qu'il y a ça ?
C'est au moment où il revient d'un vol d'essai qui rentre dans sa famille.
D'accord.
Toujours le... l'intime qui côtoie le parcours extraordinaire de Neil Armstrong. Mais du coup, et on va rebondir sur l'extraordinaire, le voyage de la Lune est quand même une aventure. Et pour cela, le compositeur convoque tout l'orchestre afin d'exprimer l'héroïsme de ces hommes et de ces femmes qui ont fait tant de sacrifices pour que leurs rêves aboutissent.
Ah, je me souviens de ce moment-là.
C'est gentiment épique.
Si, si, ouais, ouais.
C'est l'atterrissage de la fusée sur la Lune.
Ouais, c'est ça. C'était le seul moment du film un peu où tu ressentais quelque chose.
Toi, quelle est une mauvaise langue.
T'étais un peu ému. Tu sortais de la léthargie, t'avais dormi pendant une heure et demie.
Quelle mauvaise langue. N'écoutez pas, ce film est génial. Les plus attentifs d'entre vous, donc pas Antoine, qui a passé plus de temps à démonter le film qu'à écouter, auront remarqué
endormi.
Les deux mélodies entendues dans les précédents extraits, pardon, et sur lesquelles toute la bande-son est construite. Le premier symbolisant la conquête spatiale est le plus souvent joué au thérémine. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer. Le thérémine, c'est un instrument électronique composé d'une espèce de boîte et de deux antennes,
ah oui,
crée des sons synthétiques. Quelle surprise pour un instrument électronique.
Ouh. J'ai pas bien compris, tu pourras pas mieux expliquer.
Bayonnez-le. L'un des premiers instruments électroniques qui a été créé en 1920 et qui a été dès le début de l'histoire du cinéma associé à la science-fiction, car Bernard Herrmann, auditeur de France Culture, c'est pour toi, s'en est servi dès les années 50 avec la bande son de Le jour où la Terre s'arrêta.
D'Orson Welles.
Mais ils sont arrivés, les petits zones verts, ça y est.
Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, ça fait très Mars Attack, parce que Mars Attack, Danny Elfman, utilise également le thérémine dans la bande-son.
Ah bah voilà.
C'est pour ça. Et ici, Hurwitz se sert de la ressemblance du thérémine avec la voix humaine pour rendre une mélodie émouvante, presque poignante.
C'est pas une pub pour les shampoings.
Moi, j'ai l'impression que
tu sais, tu vois la dame sous la douche là qui se lève. J'ai la peau fragile.
Ah, moi, ça me faisait plus penser à la larme à l'œil, tu vois. Là, t'étais en train d'essayer de te tirer les dernières larmes qui te restaient.
Vous êtes des insensibles, c'est d'une force. Le second thème, quant à lui, personnifie l'intime de la famille Armstrong. Il est joué le plus souvent à la harpe. Ces mélodies se rejoignent le temps de plusieurs pistes, symbolisant la réunification entre le rêve de Neil Armstrong et sa famille qui l'attend malgré les épreuves qu'ils ont subies tous ensemble. Je crois qu'on pourra conclure, cher auditeur, si tu es toujours là et si tu t'es pas laissé distraire par les interventions intempestives de mes deux collègues.
Ça, c'est écrit, ça? T'avais écrit, t'allais anticiper qu'on allait de chance.
Oui, je commence à connaître les gens avec qui je travaille. Plus qu'une bande originale, le duo Chazelle et Hurwitz propose une véritable expérience sensorielle et je ne peux vraiment que vous encourager de vous y plonger, à partager pendant 2 heures l'histoire d'un homme qui fit avancer d'un grand pas l'humanité.
Alors, merci Mickaël, j'allais dire non, Antoine, mais c'est pas grave, mais Antoine aussi d'avoir participé.
J'ai été très, très turbulent, mais c'est vrai que j'ai pas aimé le film, mais en réécoutant les extraits que t'as passés, j'ai des images qui me sont revenues...
Comme quoi, c'était efficace.
C'est que le compositeur, il a fait son boulot.
Voilà, c'est efficace comme compositeur. On va s'écouter, alors tout à fait dans le thème, on va s'écouter Space Oddity de David Bowie. Hein,
qui ?
C'est dans le thème.
Effectivement.
Voilà.
Tu sais que c'est la chanson qu'ils ont utilisée pour justement le décollage de la fusée ?
Oui, et puis il est dans plein de films. Et puis Space Oddity, ouais. C'est le titre de la chanson est tiré de 2001 Odyssée de l'espace. Enfin bref, c'est une grande histoire d'amour avec le cinéma, ce titre.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. We'll be right back.
Nous revoilà. On va. On va parler de Camille, de Boris Lechkin. Donc là, dans la prochaine intervention de Boris Lechkin, il va surtout nous parler de l'actrice Nina Meurice. Alors, cette actrice.
Rapport avec Guillaume ?
Je ne sais pas, je pense pas. C'est une jeune actrice qui a une ressemblance avec Camille Lepage. Alors, si vous voyez dans le si vous voyez le film, à la fin, on voit une photo de Camille Lepage. Il nous l'explique. Alors, je ne sais pas si je vous ai mis l'extrait où il nous explique que justement dans le film, il nous montre des photos de Camille Lepage et des extraits vidéo des journalistes de l'époque. Donc, il est non seulement il a tourné des choses, mais il a mis des choses réelles dedans, aussi bien des photos de Camille que d'autres. Enfin, pas d'autres personnes, mais d'autres personnes qui ont fait des vidéos à l'époque.
D'autres Camille.
Non, mais d'autres personnes qui ont fait des vidéos à l'époque, donc des images d'archives, quoi, finalement. Voilà, je vais vous reparler un peu de quoi parle le film, ça peut être pas mal. Le film parle d'une photojournaliste qui part en Centrafrique et qui décède là-bas. Le sujet, c'est pas son décès, mais c'est ce qu'elle a vécu en Centrafrique. C'est une période qui est très compliquée, parce que c'est la fin des années 2013 et au début des années 2014, où il y a un gros trouble dans le pays. Et donc il y a des morts, il y a des voilà, c'est même plus qu'un peu le bazar. Il est pas facile à regarder parce que effectivement c'est un film de guerre qui parle de photojournalisme, mais c'est quand même un film de guerre. Et puis je pense qu'on va écouter ce qu'il va nous dire et on se reprend après, je pense, c'est ça, hein? Oui, ça me paraît bien.
Reprends-nous après.
Alors on peut pas se quitter non plus sans parler de la performance de Nina Meurice. Qui d'ailleurs a eu le prix de la meilleure actrice avec Lina Koudry de Papicha, une sorte de prix divisé en deux. Une actrice qu'on a peut-être vu, que vous avez peut-être vue récemment dans Place publique de Jaoui Bakri, et qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans un rôle aussi important sur grand écran, et qui là crève, c'est une expression un peu usée, mais qui crève littéralement l'écran, qui est dans tous les plans. Et comment s'est passée la rencontre ? Elle n'a pas trop abîmé l'écran, donc ça va là. Pour cette projection, mais comment s'est passée la rencontre, parce que c'est pas anodin de choisir une actrice qui va être dans tous les plans du film.
Oui, moi j'avais une grande hésitation en fait sur le film, c'est que pour ceux qui ont vu Hope tout à l'heure, Hope, mon précédent film qui raconte l'histoire de deux migrants africains sur la route de l'Europe, ce film Hope, c'est un film que j'avais fait entièrement avec des non-professionnels, il n'y a pas de comédien dans Hope, y compris les deux rôles principaux, Justin qui joue le rôle de Léonard et Endurance qui joue le rôle de Hope, qui ont donc beaucoup sur les épaules à jouer, des gens qu'elles n'avaient jamais joué, jamais même imaginé jouer. Et j'adore travailler avec des non-professionnels. Parce qu'encore une fois, il y a une richesse particulière, c'est des gens qui arrivent avec une épaisseur de réel, en fait, qui arrivent avec quelque chose de leur vie, quelque chose de plus brut, quelque chose que je trouve infiniment précieux pour le cinéma, et où tout le travail va être de ne pas abîmer la magnifique chose qu'ils peuvent apporter. Et donc, évidemment, sur Camille, qui est mon deuxième film de fiction, j'arrivais avec cette hésitation. Je me disais, est-ce que je ne vais pas trouver une vraie Camille ? Est-ce que je ne vais pas trouver ? Et donc, j'ai fait un casting un peu comme ça. J'ai rencontré plein d'actrices. J'ai rencontré à peu près toute la génération des actrices de 25-30 ans. Mais j'ai aussi rencontré... On avait fait un message sur Facebook... disant voilà, on cherche une jeune femme comme ça pour raconter la vie de Camille Lepage. On décrivait un petit peu comment on imaginait cette jeune femme. On mettait des photos de la vraie Camille aussi. On disait voilà, on racontait un peu sa vie. On a fait ce message sur Facebook et en une nuit, on a eu 2500 partages. Là, on s'est dit oula, on a tout de suite coupé le robinet. Mais on a quand même reçu pas loin d'un millier de propositions de gens qui nous envoyaient leurs photos, qui nous envoyaient des textes, qui nous envoyaient. Et c'était très, très émouvant. Vraiment, c'était très bouleversant. Et j'ai rencontré plein, après, des, voilà, première étape c'était des dossiers, les photos, après on a demandé à des gens des vidéos qu'ils nous ont faites, ils se filmaient eux-mêmes, ils nous envoyaient des vidéos, et après j'ai rencontré encore des gens, j'en ai rencontré plein, des gens magnifiques vraiment, des filles qui avaient fait de l'humanitaire, des filles qui avaient vécu en Afrique, une autre qui travaillait pour, je sais pas, en Birmanie, des gens qui avaient été journalistes, des photographes, des gens qui avaient plus la vie de Camille. Voilà, mais après avoir tout ce travail magnifique, je suis un petit peu revenu à la raison quand même, et je me suis dit que les comédiens, enfin comment dire, les non-professionnels, c'est très bien si vous les laissez dans leur propre vie. C'est-à-dire si vous racontez quelque chose qui est très très proche de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Mais si c'est pour les emmener dans un autre pays, dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est quand même pas mal de prendre une comédienne. Voilà. Et Nina m'avait fait une grosse impression quand je l'avais vue en essai, même si ensuite je l'ai fait poireauter pendant un an. Shame on me. Mais elle m'avait fait une grosse impression tout de suite. Et je crois que je l'ai vue le premier jour de casting. Là, c'est vraiment honte. Mais parce qu'elle avait les deux choses que je voulais pour ce personnage. D'une part, elle avait les épaules. C'est-à-dire que quand je la vois, j'y crois qu'elle peut être journaliste ou photographe et être sur des terrains compliqués. Ce qui n'est pas le cas de 90% des jeunes comédiennes que j'ai vues. La plupart des jeunes comédiennes que je l'ai vues, je me dis, toi, je sais que tu n'es jamais allé en Afrique. Ça se voit tout de suite. Impossible, tu ne peux pas m'y faire croire. Tu peux jouer tout ce que tu veux, j'y croirais pas. Il y a un truc de crédibilité que, voilà, que je ne savais pas. Donc ce que j'appelle les épaules, c'est-à-dire que je crois que cette jeune femme est capable de se tenir dans des situations compliquées, dans un checkpoint avec des miliciens, dans un... Voilà. Et la lumière, parce que Camille, c'est une femme qui est habitée par une idée de sa mission, qui est habitée par un grand idéalisme, donc il faut quelqu'un qui soit dans son être très habité. Et vraiment, Nina, elle est assez incroyable. C'est une très très bonne comédienne, mais c'est aussi une personne remarquable. Et moi, évidemment, je vous dis, j'ai fait mon film précédent avec des gens qui n'étaient pas des comédiens. Je l'ai presque interdit de jouer dans le film. Elle joue quasiment jamais. Il y a une ou deux scènes où je vois un petit peu qu'elle joue, mais j'aime pas les comédiens, en fait, moi. Ça veut dire quoi, jouer? On va pas jouer, il faut être ce qu'on est. On est là pour ça. Et je crois que vraiment, elle a traversé quelque chose de très puissant pour elle en Centrafrique. Et que je pense que c'est ça qu'on ressent dans le film, en fait. C'est qu'elle est... Et moi, mon travail avec elle a beaucoup consisté à ça. À fabriquer pour elle des interactions, ou à lui fabriquer une arène avec des scènes, avec plein de gens autour, très remuants. Et ensuite, elle a laissé se débrouiller dans cette arène et à voir qu'est-ce qui se passe dans l'interaction entre elle et les gens qui sont en face d'elle.
C'était Boris Luskin pour le film Camille. Voilà, il nous parlait de comment il a rencontré Nina Meurice et comment il a trouvé son actrice principale de son film. On va continuer l'émission en lançant une petite pause musicale avec le thème de Camille dans le film Le Mépris de Georges Delerue.
Ça, c'est un bijou.
Ouais, c'est
un bijou. Tais-toi et passe la musique.
Thank you.
Tu les aimes, mes fesses ?
Oui, je les aime, tes fesses. Nous revoilà sur Je vais au ciné. On va parler de films.
L'ambiance est horrible.
Ouais, c'est horrible.
La première chanson, on se touchait les tétons, là.
on va parler de films. Est-ce que tu veux nous parler de films, Mika ? Ou est-ce que tu veux que j'enchaîne ?
Eh ben, je vais vous parler d'une sortie VOD de septembre.
Oui.
Qui s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution. C'est un film de Judith Davis. Alors, les particularités de ce film, c'est une pièce de théâtre à la base qui a été amenée en film.
D'accord.
Et c'est le premier film de Judith Davis avec Judith Davis. Voilà. Elle combine plusieurs casquettes, elle fait le rôle principal et la réalisation. Alors, globalement, c'est quoi l'histoire ?
C'est souvent synonyme de film fauché quand. Tout le monde.
Ah, déjà envie de dire
personne
déjà.
Personne fait tous les rôles.
Non, mais elle est pas toute seule. Hein. Il y a d'autres rôles. Après, voilà, on est loin du blockbuster. Hein. Ça, c'est, on va pas se mentir. Hein. Mais quand même. Alors, au niveau de l'histoire, c'est Angèle, interprétée donc du coup par Judith Davis, qui est une jeune femme qui a des idées très. Hérité des idées très communistes de ses parents.
D'accord.
Et du coup qui est un petit peu beaucoup en décalage avec le monde capitaliste qui l'entoure. Et ça parle un petit peu de ses de ses décalages et aussi de ses de ces petites révoltes quotidiennes contre la société de manière générale. À un moment du film, sans spoiler, à un moment du film, elle pète un câble contre un distributeur automatique. C'est extrêmement drôle. alors en fait, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film qu'il est très drôle.
Comment l'as-tu découvert déjà ?
Comment je l'ai découvert ? J'en ai entendu parler. À la radio au moment où il est sorti. J'avais pas eu le temps de le voir au moment de sa sortie. Et du coup, quand on m'a dit viens, on va faire une émission sur le cinéma, on va s'amuser. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que je l'ai toujours pas vu celui-là, je vais le voir.
D'accord.
Et en fin de compte, c'est une bonne découverte parce que c'est drôle, c'est émouvant parfois, c'est très intelligent, je trouve, parce que. En gros, si je devais résumer le film, ça parle d'une génération qui est en perte de repères, en fait, dans un monde qui va toujours plus vite, etc., etc. Et ça ne va pas dans les, je trouve que ça ne va pas dans les poncifs, ça ne va pas dans les clichés, et ça n'apporte pas de réponse. Ce qui est tant mieux, parce qu'il n'y a pas véritablement de réponse à apporter. Ça, on est tous d'accord à différents niveaux pour dire qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer dans notre société, mais personne n'a vraiment les réponses.
Donc, mais les réponses à quelles questions, Mika ?
Les réponses à quelles questions ? Aux grandes questions. Pourquoi il y a tant d'inégalités, machin ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités ? Tout
ah
ça.
Oui, c'est au niveau. Ouais.
Ah donc, oui, non, mais voilà.
Ah
on
oui,
est
c'est
bas...
pas qu'est-ce qu'on bouffe ce soir, le frigo est vide.
Non, non pas
c'est
du tout.
Au-delà de.
Pas d'accord. Du tout, du tout. Non, voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors, pour inciter Antoine à le regarder, je pourrais te dire, c'est un premier film. Toi qui aimes les premiers films, même
premier
là.
Long métrage.
Ouais. Premier long métrage. Voilà, c'est filmé un petit peu comme une utopie. Et c'est une très bonne découverte et j'encourage quiconque à aller regarder cette petite curiosité.
Eh ben, tu peux nous redire le titre du film ?
Alors, ça s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution. C'est de Judith Davis et c'est sorti en VOD en septembre.
Eh ben, merci Mika. Moi je vais vous parler d'un film vite, rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Ça s'appelle Code Blood Legacy, la mémoire du sang. C'est de Frédéric Petitjean, c'est un premier long métrage qui n'est pas réussi, faut être honnête.
Mais c'est ça qui est bon.
Mais c'est ça qui est bien. Alors déjà parce que y a Jean Reno et que j'aime bien Jean Reno, quoi qu'il arrive. Il joue plutôt bien, mais le film est raté. Alors pourquoi il est raté ? Alors déjà le scénario il tient bancalement, on se demande comment il arrive à tenir à peu près debout, la réalisation elle est ratée, c'est le principe du fusil de Pavlov, alors pour expliquer, si on monte quelque chose dans
c'est pas Tchekhov
film, c'est Pavlov il me semble, mais bon.
Fusil de Tchekhov, le prétexte,
Tchekhov,
c'est Tchekhov.
Ouais. Oh, c'est Tchekhov alors. Et, Et donc, ils nous montrent des choses et puis on les voit pas, ou alors à des moments on les voit, mais on sait pas d'où ça sort, donc c'est un peu le problème. Le personnage principal est omniscient, enfin bon, bref, il y a des choses qui vont pas.
Mais de quoi ça parle?
Mais alors, c'est un.
Bonne question.
Bonne question, c'était une très
bonne
question.
On va commencer
par là. C'est un tueur à gages qui tue quelqu'un.
Oh
et
là
qui va... Ça se tient. Jusque-là, tout va
Jean
bien.
Jean Reno est un tueur à gages, mais dis donc,
bah, dis
quel
donc,
rôle de composition.
Est-ce qu'il était à la retraite?
Et il va prendre sa retraite.
Ah,
il va prendre sa retraite.
Là, on tient un genre. Hein. La dernière fois, c'était Johnny Wick.
Johnny Wick.
Non, là,
et là, donc, il prend. Globalement, il part en retraite dans une cabane.
Encore une milieu. Rencontre, Johnny Wick, Jean Reno.
Ouais, John Wick.
Je pose la question.
Donc, il va dans un chalet en plein milieu de la forêt, dans le Canada, en plein hiver. Enfin, bref, un truc complètement perdu. Au moins, il est sûr de ne pas être emmerdé normalement. Et débarque une jeune femme qui décide de partir par là. Alors pourquoi elle passe par là, on n'en sait rien.
Ah mais je me souviens de ce film.
Et au final, bah, elle a un accident avec sa motoneige. Bon, on sait qu'elle devait partir par là, toute seule. Voilà. Elle est a priori poursuivie par quelqu'un. Elle a un accident. Tu as Jean Reno qui vient la récupérer. Il n'est pas très cool avec elle parce qu'effectivement, lui, il voulait être peinard, tranquille dans son coin. Et on découvre qu'il y a une relation entre les deux. De quoi ?
Tranquille, peinard, accoudé au comptoir.
Oui, voilà, c'est un peu ça. Sauf que tout seul dans un chalet en plein milieu de rien, effectivement, normalement, tu dois rencontrer personne. Bon, il y a des incohérences entre le scénario et ce qui s'y passe. Il s'y passe un nombre de choses sans grand intérêt. Il y a une relation qui se crée entre les deux, qui a priori est... Enfin, on la voit venir à 2 km. Sauf qu'à la fin, bah, on reste un peu sur cette fin. Alors, pourquoi il la tue pas alors que dès le début, pourquoi il la tue pas, enfin on sait pas. On sait pas pourquoi en tant que tueur à gages il tue pas. Pff, on a aucune idée. Parce qu'il pourrait la tuer, rien ne l'empêche, ça fait un témoin en trop, ça fait une personne qui le fait chier, bref. Bon, globalement, pour moi, je pense que c'est sa fille, mais c'est une interprétation personnelle du sujet. Je vous conseille absolument pas de le voir, parce qu'il n'y a aucun intérêt à voir ce film, mais vraiment aucun. Il n'y a rien de bien, donc, globalement, à part l'interprétation de Jean Reno, qui est à peu près correcte dans un film.
Jean Reno, il fait du Jean Reno depuis 75 ans.
Oui, et puis en plus, c'est un rôle qu'il a déjà fait X ouais, fois, donc il ne peine pas à le faire. Quoi.
Hashtag Léon.
Hashtag Léon, hashtag commencé aussi dans Nikita et autres. Donc, je pense que c'est un film, vous pouvez passer à côté sans problème. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est très bien. Passez au prochain film, oubliez celui-là. Et on verra peut-être que Frédéric Petitjean nous fera d'autres films intéressants à l'avenir, mais celui-là n'est pas terrible. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus.
J'aime bien cette conclusion.
Ouais.
N'allez pas le voir.
N'allez pas le voir.
C'est une bouse.
C'est pas bon. Mais faut parler des mauvais films aussi. C'est intéressant de parler des mauvais films.
C'est dur de louper un film.
Non. Ouais, mais là,
des fois, t'as des daubes qui sont super plaisantes à regarder.
Ouais, mais lui, non.
Non, même dommage. Pas. Ouais, il a loupé.
Il l'a loupé complètement. Ah, bah, surtout qu'il donne pas d'explication à aucun moment.
À partir sur la philosophie, peut-être, mais moi, je trouve que c'est plus un miracle d'arriver à faire un bon film, en fait.
Oui, ça se tient plus du miracle parce que c'est tellement compliqué.
C'est tellement compliqué le fait de pouvoir mettre tout le monde d'accord, que tu sois d'accord avec ta propre vision, que ta vision tienne devant les producteurs, devant les.
Puis ça intervient tellement de personnes sur un tournage,
ouais,
en plus.
Tellement, ouais. C'est plutôt un miracle d'arriver à un bon film, que le réalisateur arrive à accoucher d'un film qui soit conforme. À ne serait-ce que 50 ou 60% de sa vision d'origine.
Et puis en plus, pour un premier film, faire quelque chose qui n'était pas personnel, c'est toujours très compliqué. Et là, a priori, c'est pas personnel.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Bah, un tueur à gages.
Peu de chance qu'il soit un tueur à gages, voilà. Monsieur Petitjean.
Donc c'est pas un sujet qui lui tient à cœur, et bon, donc c'est raté. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis au revoir, Antoine et Mika, et puis à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Allez faire la sieste.